Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une émission préparée par Céline Leclerc, Fanny Richer, Nicolas Ignatieff, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Clément Daté. C'est un sujet de dissertation qu'affectionnent les écoles de sciences politiques, le clivage gauche-droite. L'axe gauche-droite structure-t-il encore la vie politique ? Est-il dépassé ? Des générations d'étudiants et de chercheurs ont planché sur la question, mais aussi des journalistes, des intellectuels et aujourd'hui les responsables politiques eux-mêmes. C'est que la question se posait déjà avant que des élections mettent en scène un second tour opposant non pas le grand parti de droite et le grand parti de gauche, mais l'un d'eux avec une autre formation, jusque-là cantonnée au rôle de parti dit contestataire. Ce fut le choc du second tour de la présidentielle du 21 avril 2002, opposant Jacques Chirac à Jean-Marie Le Pen, puis de nombreuses triangulaires lors des scrutins législatifs. Au lendemain de la législative partielle dans le Doubs, où le candidat socialiste a finalement remporté la victoire de justesse devant la candidate du Front National, la question est de nouveau sur toutes les lèvres. Cette élection est-elle le révélateur de la fin du traditionnel duel entre les deux grands partis, de droite et de gauche ? Les partis politiques sont historiquement le reflet de valeurs, d'intérêts, voire d'idéologies qui travaillent la société. Ils sont aussi l'héritage, depuis la Révolution française, de grandes familles politiques, tout comme ils sont façonnés par des règles de scrutin. Mais si l'axe gauche-droite ne fait plus sens, dès lors à quel autre clivage se rattacher pour comprendre les rapports de force et les tensions à l'œuvre dans toute la société ? La ligne structurante passe-t-elle désormais sur des controverses comme le mariage pour tous ou les politiques d'austérité ? Le paysage politique français est-il structuré par de nouveaux clivages ? C'est notre sujet du jour. Et j'ai le plaisir d'accueillir trois invités pour en discuter ce soir. Françoise Fressoz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste politique au Monde et vous animez également le blog Le 19h de Françoise Fressoz. À vos côtés, Nicolas Saugé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, vous êtes professeur associé à Sciences Po. Et enfin, Sylvain Crépon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Tours. Vous êtes rattaché au laboratoire d'études et de recherche sur l'action publique, le LERAP. Et vous êtes auteur notamment de « Enquête au cœur du nouveau Front National ». C'était aux éditions Nouveau Monde en 2012. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être ici. Alors, on va commenter la législative partielle dans le Doubs, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que la séquence politique de ces dernières semaines dans le Doubs, et qui s'est achevée hier soir, alors elle n'était pas inédite en termes de triangulaire, mais est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'elle soit de plus en plus fréquente ? Je rappelle que 2015 va être une année riche en élections entre les cantonales en mars et les régionales en décembre. Françoise Fressoz.
Je pense qu'on a affaire à une dynamique du Front National. On l'a vu dans le Doubs, où j'avais rencontré Marine Le Pen il y a à peu près 2 mois, qui ne pensait pas pouvoir remporter cette élection, en disant que c'était quand même très difficile. Et on voit qu'il y a eu une dynamique, notamment au deuxième tour, où la candidate a augmenté ses voix. Donc on risque d'assister à des triangulaires qui se termineront ensuite sans doute par des duels où le Front National sera là. Et je pense que ce parti aujourd'hui, oui, est en capacité de, ce qu'on disait, c'est faire turbuler le système traditionnel gauche-droite. Oui, je pense.
Nicolas Saugé, vous partagez cette prévision ?
Alors, je la relativiserai un tout petit peu en disant que finalement, ce n'est pas si nouveau que ça. Hein. Ça fait au moins une quinzaine d'années que le Front National perturbe ce jeu politique. Hein. Si on prend les régionales, le Front National, depuis 1998 au moins, et 92 même si on remonte un peu plus loin, voire 86, il a été là pour perturber un peu les arrangements ou la compétition entre le RPR à l'époque et le Parti Socialiste. De ce point de vue-là, ce n'est pas différent. Ce qui va être différent peut-être, c'est plutôt pour les départementales, où l'agrandissement des cantons est finalement plus favorable au Front National, qui a un peu une nationalisation de ce scrutin, alors qu'avant c'était un scrutin très local qui va lui être favorable. Mais on est fondamentalement là plus dans l'apogée d'un système un peu déstructuré, mais qui s'est mis en place dans une compétition autour de 3 personnes dont on ne sait plus vraiment l'ordre. Le Front National, il a atteint ce statut de faire jeu égal avec les autres, ce qui n'était pas exactement le cas avant. Et c'est cette situation de jeu égal qui rend les choses finalement très aléatoires aujourd'hui. On ne sait pas si le PS, il peut être éliminé au premier tour comme l'emporter au deuxième tour. À quoi ça se joue ? Quelques centaines de voix.
Alors précisons que pour les cantonales, il y aura donc peut-être des cas triangulaires au moment de l'élection et en plus au moment de l'élection du président du département, ce qui risque de multiplier encore les cas. Pour finir le tour de table, Sylvain Crépon, sur la potentialité d'avoir à nouveau de plus en plus de triangulaires dans les élections à venir.
Oui, moi je partage ce qui vient d'être dit, effectivement. Je pense que le Front National est sur une voie d'ascension électorale indéniable. La tripartition, ou en tout cas l'émergence du Front National comme empêcheur de tourner en rond du système, c'est absolument pas nouveau. C'est quelque chose qui a émergé mais déjà dans les années 90, mais déjà dans les années 1980. Il faut s'en souvenir, avec notamment à la faveur de la proportionnelle, l'élection d'un groupe de 35 députés à l'Assemblée Nationale. Ce qui change maintenant véritablement, c'est la proportion, je pense. Donc la donne politique, la donne électorale est différente, et je pense aussi la donne idéologique est différente. C'est-à-dire que la perception du Front National n'est pas tout à fait la même. Et ce, quand bien même son programme n'a pas changé, je veux dire, la pierre angulaire du Front National, c'est la préférence nationale, c'est la réforme du code de la nationalité. Donc ça, je veux dire, à ce niveau-là, ça n'a pas changé. Mais en tout cas, sa perception à ce niveau-là est différente. Le Front National, sans doute, en tout cas, moi, c'est ce que je vois un peu dans mes enquêtes de terrain auprès des électeurs et des sympathisants et des militants, fait de moins en moins peur. Et ça, à mon avis, c'est ce qui fait peur aux autres partis et qui a tendance un petit peu à brouiller les repères qu'on peut voir.
Françoise Fressos.
Je pense qu'effectivement, le phénomène de Front National n'est pas nouveau. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même que avant, vous aviez des situations où les partis de gouvernement étaient en capacité de le réduire parce qu'il y avait la croissance qui était là, parce qu'il y avait des résultats économiques qui étaient là, parce qu'il y avait des actions qui donnaient des résultats. Ce qui est très frappant dans la situation actuelle, c'est que la France est depuis 2008 en crise. Et que maintenant, ce qu'on entend du côté des électeurs frontistes, c'est de dire UMP-PS, vous avez failli exactement de la même façon. Et je n'avais pas entendu tellement cet argument avant, c'est-à-dire en 1998, quand il y avait déjà cette poussée. On est vraiment profondément installé dans un paysage où l'impuissance politique est sollicitée de façon très forte. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que ils ont inventé, les partis de gouvernement, des règles pour essayer de freiner le Front National. Et on s'aperçoit, finalement, vous voyez par exemple la règle de qualification de 12,5% des inscrits, on s'aperçoit que c'est peut-être le Front National qui va en profiter. Donc ça montre aussi à quel point ce parti est dans une dynamique de crise et que c'est très difficile aujourd'hui pour les partis de gouvernement de l'endiguer.
Alors on va revenir sur cette question institutionnelle, juste encore sur la séquence politique qu'on vient de vivre, entre la visite des chefs de parti, de ministres, la rhétorique sur l'esprit du 11 janvier à gauche, les conflits sur les consignes de vote à droite et le débat sur le Front républicain. Est-ce que finalement la séquence politique qui a accompagné cette élection législative partielle n'aura pas été plus importante, pour les observateurs notamment que vous êtes, que les résultats de cette partielle? Sylvain Crépon.
Oui, alors je pense qu'aussi, alors sans vouloir faire jeter l'opprobre ou faire des procès à tel ou tel parti qui observe le Front National, c'est vrai que le Front National, c'est un objet politique en quelque sorte rentable. Et donc on a vu un peu une sorte de surmédiatisation des différentes partielles qui ont pu avoir lieu, alors que ce soit des cantonales ou, dernièrement... des législatives, et il y a une sorte de je veux dire, le contexte n'est pas du tout le même que si on était dans une élection législative classique à l'échelon national. Donc je pense aussi il y a une moindre mobilisation des électeurs. On essaye de faire un peu un enjeu national de ce type de scrutin qui est très local, qui est très particulier, avec les médias qui sont en quelque sorte qui pointent la situation à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut en quelque sorte raison garder, ne pas en tirer des conclusions un peu trop hâtives. Moi-même, je me garde bien d'essayer de prédire ce qui pourrait arriver dans les mois ou même les années qui vont venir.
Et alors, il y a quand même quelque chose de très réel et de très national qui s'est joué, c'est le conflit à l'UMP. Françoise Fressos, vous avez consacré pas mal de papiers ces derniers jours à comprendre ce qui est en train de se jouer au sein de l'UMP. Alors, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, dans ce conflit très fort entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy?
On peut avoir un peu une vision de guerre des chefs en disant, bon, il y a un leader qui est revenu, qui est Nicolas Sarkozy, qui essaye de s'imposer comme le leader. Et puis, on a le processus de la primaire qui fait que mécaniquement, on a des candidats qui cultivent leurs différences. Mais je pense que c'est quelque chose de plus profond ce qui s'est passé. Je pense que vous avez eu en 2007 le candidat Sarkozy qui a dit « je vais réduire l'électorat Front National ». C'était ça la grande promesse de sa campagne, c'était d'essayer de refaire une droite très forte, forte sur ses valeurs et en capacité de récupérer les électeurs du Front National sur deux grands objectifs, le pouvoir d'achat d'abord, et puis l'identité, c'est pour ça qu'il avait créé ce grand ministère de l'identité nationale. C'est un échec, parce que la crise est passée par là, parce qu'il n'y a pas eu de résultat sur le pouvoir d'achat, et qu'on a vu que tout le débat sur l'identité nationale, animé par Patrick Buisson, finalement avait presque donné une dynamique supplémentaire au Front National. Donc Nicolas Sarkozy n'est plus en capacité d'imposer à l'UMP une règle. Et on assiste à mon avis, trois phénomènes à l'UMP. On a vraiment une tendance qui s'affirme, qui est la tendance Juppé, qui dit maintenant, on ne récupérera plus les électeurs frontistes. Donc, il faut une alliance. Il faut une alliance d'abord avec les centristes, et je pense que dans sa tête aussi, il se dit à un moment, il y aura peut-être une alliance avec les socialistes, contre le Front National. Et puis vous en avez d'autres, au contraire, qui disent il faut récupérer l'électorat frontiste, il faut être très à droite. Et là, vous avez plusieurs variantes, c'est-à-dire que vous pouvez être à droite très, très populaire, c'est un peu Xavier Bertrand, vous pouvez être à droite très sur la thématique lutte contre l'assistanat, c'est Laurent Wauquiez, mais vous avez ça à l'UMP, je pense que c'est quelque chose de très profond, ça dépasse la querelle d'hommes. Et quand vous observez la stratégie de Marine Le Pen, elle a toujours pensé qu'elle arriverait à faire éclater l'UMP, qu'elle en récupérait une partie. Donc ce parti est fragilisé, mais il est fragilisé par des débats qui sont, à mon avis, qui ont vraiment du sens, qui sont profonds.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a un décalage aujourd'hui entre la base électorale de l'UMP et la ligne chiracienne, on va dire, de 1998, qui avait posé le principe pas d'alliance politique avec le FN ? Est-ce que c'est la mise à jour de ce décalage qu'on voit aujourd'hui, qu'on a vu ces dernières semaines, Sylvain Crépon ?
Oui, tout à fait. C'est, à mon avis, c'est la preuve éclatante que le Front républicain et que la doctrine Chirac, qui était « on ne s'allie pas avec le Front national », fait partie du passé, désormais. Mais ça pose aussi la question de l'identité du Front national et de l'identité de l'UMP, c'est-à-dire sur quelle base se réconcilier, ou en tout cas, plutôt se s'allier. L'identité du Front National, elle n'est pas forcément évidente. Est-ce que c'est un parti qui se veut une sorte de droite extrême, c'est-à-dire de caricature de tout ce que représente la droite, c'est-à-dire ultralibéralisme économique, politique ultra-sécuritaire, ultra-nationalisme ? Ou est-ce que c'est quelque chose finalement de plus compliqué avec des thématiques qu'on voit surgir du ni droite ni gauche, d'une thématique sociale, d'une certaine forme de souverainisme ? Et on voit que ces deux pôles, par exemple, sont incarnés au Front National par des gens différents. Alors, est-ce qu'ils sont convaincus ou est-ce que c'est parce qu'ils sont implantés dans des régions sociologiquement différentes d'un point de vue électoral et politique ? Bon, la question mérite d'être posée. Mais en tout cas, on voit à ce niveau-là que s'allier avec l'UMP, ça a l'air évident pour le Front National, mais au niveau de l'électorat du Front National et d'une partie de son personnel, c'est peut-être pas forcément aussi évident. Je prends juste deux exemples.
D'autant, pardon, que ça va être difficile de s'allier avec l'UMP après avoir porté un discours contre l'UMPS. Mais
absolument, bien sûr. Et si on prend par exemple une région que je connais bien où j'ai fait des enquêtes, qui est le Pas-de-Calais, notamment Hénin-Beaumont, où vous avez un électorat qui est sociologiquement populaire, ouvrier, auquel les thématiques de préférence nationale parlent certes un petit peu, mais enfin c'est pas forcément le fond du problème, c'est beaucoup plus le discours souverainiste, anti-mondialiste, anti-capitaliste. Et puis vous avez un Front National davantage du Sud, incarné par Marion Maréchal-Le Pen, qui est un Front National beaucoup plus droitier, beaucoup plus sur les positions anti-immigration, sécurité, sécuritaire. Et essayer de trouver, alors tous les partis sont un peu traversés par des courants, des tendances différentes, mais là, au niveau du Front National, c'est extrêmement marqué. Et donc je pense que
c'est
par
marqué,
exemple,
mais on ne le voit pas encore au niveau politique. On n'a pas encore parlé du PS qui lui aussi est traversé par des conflits. François Fressot,
c'est vrai ce que vous dites. Simplement, ce parti a et un leader. Et moi, c'est ce qui m'a frappé aussi au dernier congrès. C'est-à-dire que vous avez toujours une tradition. Moi, je me souviens, au RPR, vous aviez, entre les souverainistes, les libéraux, vous aviez... Bon. Là, au Front National, vous avez tous les courants possibles pour récupérer, en fait, ceux qui ne veulent plus du système. Mais vous avez un leader. Et je trouve que c'est
donc
ça aussi.
Donc, ça tient.
Et ça tient. Un leader qui est bien implanté et qui prospère. Et je trouve que ça, c'est quand même un phénomène à souligner.
Alors, le PS, de son côté, derrière la victoire de son candidat, derrière le discours du 11 janvier, qui a un petit peu fait taire à l'intérieur, dans les rangs du PS, les dissensions qu'on voyait depuis l'élection de François Hollande. Pour autant, le PS n'est-il pas lui aussi menacé par la montée du Front National, Nicolas Sauger?
Ça a été historiquement le premier menacé. Si on regarde les précédentes élections, dans les duels qui avaient lieu entre l'UMP et le Front National, c'était le PS souvent qui était éliminé jusqu'à présent. Et quelque part, en tant que parti de gouvernement, il y a une... de gouvernement impopulaire, faut-il ajouter, il y a une vraie menace pour le PS d'être éliminé, on sait, pour les départementales comme pour les régionales, dès le premier tour, et ça se passera dans un nombre non négligeable de cantons ou de régions. Après, savoir exactement cette proportion, c'est très compliqué, parce que ce qu'on voit actuellement, c'est ce que j'essayais de dire, c'était... Finalement, les forces sont relativement égales aujourd'hui. Elles sont vraiment divisées entre trois forces égales. Et c'est l'égalité relative de ces forces qui pose problème. Parce que finalement, le jour où on sait que le PS est 10 points derrière l'UMP et le Front National, alors le PS changera de stratégie. Le jour où l'UMP sera 10 points derrière le PS et ou le Front National, alors l'UMP changera de stratégie. Mais tant que les forces sont relativement équitablement réparties, alors personne n'a intérêt à véritablement changer de stratégie parce que, peut-être, avec un peu de chance, peut-être avec un sursaut républicain, on peut l'emporter in fine. Et là, c'est le grand danger dont on peut discuter, c'est que le Front National, finalement, il a pâti jusqu'à aujourd'hui de la logique majoritaire des institutions, mais demain, aussi bien, il va pouvoir en profiter. Et ce n'est pas quelques députés qu'il pourrait gagner, ce n'est pas quelques régions, mais il peut tout d'un coup, s'il réussit à gagner ces quelques points de pourcentage dans l'électorat, ça a emporté un nombre très substantiel de régions, de cantons et demain de circonscriptions législatives.
Est-ce que vous avez l'impression que les cadres du PS ont pris la mesure, ont pris conscience de ces changements, des potentiels dangers, ou est-ce qu'ils sont encore dans un logiciel partisan où le PS est absolument hors de danger, restera la force principale de gauche et le seul parti de gouvernement à gauche?
Moi, je pense qu'ils ont parfaitement compris le danger. Quand vous regardez les déclarations de Manuel Valls, on est sur le fil du rasoir. Quand vous voyez Cambadélis qui dit « il y a le feu au lac », je pense qu'ils sont vraiment sincères. Simplement, ce qui me frappe aussi, c'est qu'ils sont assez impuissants à endiguer le phénomène. C'est vrai qu'il y a à peu près trois forces égales, mais trois forces égales dans un paysage politique qui est quand même assez dévasté, avec des électeurs qui se déplacent de moins en moins. Une vraie interpellation sur la puissance du politique. Et là, le Parti Socialiste est très démuni parce qu'il n'a pas de résultats concrets sur tous les sujets sur lesquels il est attendu, notamment le pouvoir d'achat, l'emploi. Et donc ça les fragilise beaucoup. Donc je trouve qu'ils sont ils ont pris la grande conscience du danger, mais ils ont énormément de mal à riposter. Ils ont d'autant plus mal à riposter que l'idée du Front Républicain est morte maintenant. Je veux dire, ils ne peuvent plus brandir la menace pour la République, ça ne marche plus.
Et pourtant là, on peut dire que ça a quand même fonctionné. Le candidat PS est passé. C'est pas grâce au Front Républicain.
Ça a marché d'un fil, vraiment d'un fil. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, le candidat socialiste a remercié nommément toutes les personnalités de droite qui avaient appelé à voter pour lui, en tout cas à faire barrage au Front National. Mais c'est beaucoup moins évident qu'avant. Et par conséquent, il y a un vrai danger pour le Parti Socialiste.
Le Front Républicain est mort, dit Françoise Fressos. Vous êtes d'accord, Nicolas Sauger, oui, Sylvain Crépon, sur là-dessus?
C'est évident. Le Front Républicain, c'était l'alliance explicite entre l'UMP et le PS pour soutenir un candidat, le meilleur ou le seul qualifié, contre le Front National. Aujourd'hui, on voit très clairement que la stratégie majoritaire de l'UMP, c'est de ne pas appeler explicitement à voter pour le PS prioritairement. Donc il n'y a plus de Front Républicain dans cette définition un petit peu précise. Après, il reste une stratégie de cordon sanitaire où personne ne refuse de s'allier avec le Front National. Mais c'est deux niveaux différents d'analyse. Et cette stratégie de cordon sanitaire, c'est ce qu'on disait, c'est qu'elle va probablement un jour éclater. C'est qu'il y aura des tentations de plus en plus nombreuses pour s'allier avec le Front National. Elles ont été là en 98 très fortes quand l'enjeu était présent. Quand dans les départementales, quand dans les régionales, quand dans les prochaines élections, il y aura aussi le choix entre s'allier au Front National ou perdre l'élection, la question, elle se reposera évidemment. La question, elle ne se pose pas quand il n'y en a pas besoin. Mais dès qu'il y en a besoin, évidemment, c'est difficile de quitter le pouvoir ou de renoncer à conquérir un pouvoir possible.
Pour reprendre ce que vous dites sur en 98, ça ne touchait pas seulement le RPR, il y avait aussi un débat au sein de l'UDF, hein, qui est pourtant présenté comme très anti-front, entre Madelin, qui était pour des alliances dans les régions, et puis Bayrou, qui était farouchement hostile. Donc c'est un sujet qui a déjà traversé la droite et qui risque de lui poser problème. Oui.
Alors, puisqu'on se demande ce soir quels sont les nouveaux clivages qui structurent l'échiquier politique, moi j'allais justement vous demander si un des nouveaux clivages, plutôt que gauche-droite, il fallait s'attendre dès lors à un clivage parti républicain d'un côté, donc Front républicain, et parti, alors étiqueté anti-républicain par les autres. Donc, mais à vous écouter, non, ce n'est pas un clivage qui peut être structurant pour la vie politique française dans les années à venir. Sylvain Crépon.
Ça dépend à qui on s'adresse. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui sur l'échiquier politique, c'est que tout le monde se déclare républicain. Personne ne se dit opposé à la République. Et même autrefois, si l'extrême droite prétendait abattre la République, aujourd'hui, l'extrême droite, en l'occurrence le Front National, prétend incarner véritablement les valeurs de la République, la laïcité, etc. Même si, bon, c'est en quelque sorte un dévoiement de la laïcité, puisqu'il s'agit de s'opposer essentiellement à l'islam, donc de renoncer à cette vision universaliste. Mais il n'en demeure pas moins que dans les représentations, il y a une sorte de sentiment de peur par rapport à toutes ces questions, de peur, d'insécurité, d'immigration, et que à ce niveau-là, oui, tout à fait. Je veux dire, il y a une sorte de confusion qui profite tout à fait au Front National.
Nicolas Sauger. Moi, je voulais rappeler un tout petit peu d'histoire politique aussi. Ce front entre parti républicain et parti non républicain, c'est celui qui structure toute la 4e République et une partie de la 3e. Il faut rappeler que le rôle du Parti communiste, c'était un parti anti-républicain à l'époque et qu'il a duré pendant très longtemps en France et que le SFIO, à l'époque, s'alliait plus volontiers au MRP ou aux différents partis centristes que sur sa gauche. Et donc ça peut revenir. Il n'y a pas de tradition. Je crois que là, on a un mythe sur les 20 dernières années de la 5e République où on a ce clivage gauche-droite PS-UMP ou RPR qui est absolument structurant. Mais c'est quelque chose qui est récent et ce n'est pas la tradition française quelque part.
Ah, donc finalement, le clivage gauche-droite bien traditionnel, pas si évident que ça.
Non, c'est quelque chose vraiment qui naît dans les années 70 de manière absolument claire, qui structure la vie politique des années 70 aux années 2000, en gros, qui est en train de mourir aujourd'hui, en tout cas de se transformer ou de juste se disloquer sans qu'on sache exactement ce qui va lui succéder. Et avant, il y a eu différentes configurations de ces clivages. Mais je disais, le Parti communiste, ça a été un élément structurant du débat et de la compétition politique. Il y en a eu d'autres. Hein. Le Parti gaulliste, hein, sous la 4e République, c'est une force anti-républicaine à l'époque, hein, il faut le rappeler.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
Le paysage politique français est-il structuré par de nouveaux clivages? C'est le sujet ce soir et on en débat avec Françoise Fressoz, Nicolas Sauger et Sylvain Crépon. Il y a un contexte européen dont il nous faut parler un tout petit peu. Ce qui vient de se passer en Grèce, ce qui se passe actuellement en Espagne avec l'ascension du parti Podemos et surtout l'effondrement d'un côté du PASOK, le parti socialiste grec, et le PSOE, le parti socialiste espagnol. En quoi ça peut être apprenant pour le système politique français, même si on n'a pas une force ici en France qui pourrait ressembler, peut se comparer, aucune force en France ne peut se comparer à ce qu'on voit émerger en Grèce et en Espagne. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que les règles de l'échiquier politique ne sont pas figées. Et qui aurait prédit un pareil effondrement d'un parti socialiste en Europe? Donc, est-ce que c'est pas ça la leçon à retenir de ce qui se passe ailleurs, Françoise Fressoz?
Quand vous parliez des nouveaux clivages outre le gauche-droite, je pense que le clivage européen, c'est quelque chose de très important, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça remonte à tout ce qu'on a assisté depuis le référendum sur Maastricht, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même une France qui est coupée en deux sur la question européenne. Et donc ça complique tout à l'intérieur des partis. Et je pense que ça nourrit aujourd'hui aussi la dynamique du Front National, qui est un peu, qui arrive à partir du discours européen à proclamer la rupture. Et ce qui me frappe, c'est qu'en France, c'est le Front National qui s'est emparé de cette dynamique de rupture, alors que la gauche de la gauche est en très mauvaise posture. Donc ça, c'est une incongruité dans le paysage un peu européen. Mélenchon se porte très mal, et je pense qu'il se porte mal parce qu'une partie de ses électeurs sont passés du côté de Marine Le Pen. Et ils sont passés sur la question européenne en disant « on ne peut plus continuer comme ça, il n'y a pas de résultat économique, il faut remettre en cause l'Europe ». Voilà, je pense que c'est ça qui est en train de se passer un peu en France.
Nicolas Sauger, vous partagez cette explication du fait que Mélenchon ne décolle pas par rapport à Podemos ou Syriza, encore une fois.
Tout à fait, il faut bien voir aussi qu'en France, comparer à la Grèce, l'Italie dans une certaine mesure, ou l'Espagne, il y a un système de protection sociale qui reste relativement fort, robuste, hein, ce qui est beaucoup plus développé que dans le reste de l'Europe du Sud. Et ce qui explique aussi peut-être un peu que la gauche ou la gauche de la gauche ait un petit peu plus de mal aujourd'hui en France que pour avoir une réponse à la crise. Finalement, hein, c'est ce renouveau du discours de la protection sociale, de la fin de l'austérité, en acquérant de nouveaux droits, il est peut-être moins pertinent ou moins facile à faire passer en France aujourd'hui, ce qui laisse plus de place symétriquement à un discours de la protection et du retour en arrière, on pourrait dire, du Front National.
Tu veux que réponds ?
Oui, juste un mot sur le fait que le Front National capterait l'électorat ouvrier de la gauche. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention. Là, je pense aux travaux, par exemple, de Nona Meyer, Joël Gombin ou Florent Gougou, qui ont montré qu'il faut un peu relativiser ce mythe de captation des vases communicants, parce que on navigue un peu sur ce mythe de l'électorat ouvrier. Ouvrier veut dire communiste ou socialiste, et donc prendre de l'électorat ouvrier, c'est prendre de l'électorat à la gauche. Il ne faut pas oublier qu'il y a une tradition en France de vote ouvrier de droite, hein, d'identité ouvrière de droite. Et ce qui est très intéressant, et je pense que ça concerne aussi l'élection dans le Doubs, c'est que le Front National capte l'électorat ouvrier, c'est vrai, mais il capte surtout l'électorat ouvrier de la droite. C'est là vraiment, c'est son principal réservoir chez les ouvriers, même s'il en prend aussi un peu à la gauche, hein, naturellement. Et que du coup,
excusez-moi, donc l'idée que l'électorat communiste est passé au Front National, ça c'est un cliché.
Oui, c'est un cliché, absolument. Oui, c'est voilà.
Mais comment vous expliquez que Mélenchon, avec toute la situation sociale qui est la nôtre, toute l'insatisfaction qu'on voit, ne progresse pas depuis l'élection de 2012 ? Ne progresse pas.
Où est
passé son électorat ?
Je pense que son électorat, structurellement, c'est intéressant de voir la sociologie de l'électorat de Mélenchon, finalement, qui n'est pas si différent de l'électorat du PS, qui est un électorat de la classe moyenne du secteur public, qui est très politisé et qui n'est pas du tout proche de l'électorat du Front National, qui a un électorat qui, finalement, est très proche de celui des abstentionnistes, qui est très peu politisé, qui est très peu inséré socialement, économiquement, et que c'est beaucoup plus lui qui vote pour le Front National que l'électorat de Mélenchon. Et d'ailleurs, ça montre quand même que le Front National a peut-être, ça c'est une hypothèse, mais a peut-être encore une marge de progression supplémentaire, en ce sens où son électorat étant très proche de l'électorat étant très proche de celui des abstentionnistes, il a peut-être encore une marge de progression. Et on l'a vu d'ailleurs, dans le Doubs, il a pris certains abstentionnistes du premier tour.
Absolument.
Sont allés voter pour le Front National. Et là, à mon avis, il y a peut-être, on peut encore, on n'est peut-être pas non plus
ça,
au premier
inédit,
jour des
Sylvain
surprises.
Crépon. C'est inédit ce mouvement-là des abstentionnistes qui se mobilisent au second tour pour se reporter plutôt vers le Front National.
Alors, j'ai pas une connaissance suffisamment claire de l'histoire électorale, mais oui, je pense qu'effectivement, cette mobilisation des abstentionnistes en faveur du Front National, traditionnellement, on avait quand même des élections où le Front National atteignait son climax lors du premier tour, et ensuite, il y avait une sorte de Front Républicain, l'électorat des autres partis se mobilisait, et maintenant, on voit qu'il a encore une marge de progression, un tiers un peu au niveau de l'électorat de l'UMP, de la droite, et puis également un tiers chez les abstentionnistes qui peuvent se mobiliser en sa faveur.
J'entends qu'aucun de vous ne parie sur l'émergence proche du Front de Gauche comme un grand mouvement politique capable de faire jusqu'à 20% comme Podemos. Est-ce que d'autres partis comme Nouvelle Donne, par exemple, qui sont plus neufs sur l'échiquier politique, pourraient incarner ça ? Nicolas Auger,
ça paraît peu probable aujourd'hui.
En même temps, on n'a pas vu venir d'autre chose, donc posons la question aussi.
Non, pour l'instant, c'est un vrai défi de la vie politique française, hein, c'est qu'on ne voit pas exactement où viennent les alternatives. Quelque part, le Front National est neuf, un petit peu plus neuf que les autres, grâce à Marine Le Pen, où il y a un nouveau leadership qui s'est construit et qui a renouvelé au moins l'image du parti, à défaut de son programme. Pour la gauche et la droite, on ne voit pas exactement où est la nouveauté. Hein. Quelque part, les écologistes, c'était la nouveauté des années 90, maintenant elle est un peu plus ancienne, on a vu un certain nombre de débats. La gauche nouvelle, là aussi, c'était les années 90, hein, ou 2000, il faut se rappeler de Besancenot. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Nouvelle Donne, pour l'instant, n'a absolument pas marché auprès des électeurs. Il y aura peut-être quelque chose d'autre, mais c'est assez difficile à prévoir aujourd'hui.
Françoise Fressos ?
Quand vous parliez tout à l'heure de l'émergence de nouveaux clivages, il y a quand même le thème de l'identité qui monte très fort en France, un peu à l'unisson de l'Europe, et qui désavantage fortement les partis de gauche, parce que les partis de gauche, c'est quand même l'égalité, c'est pas l'identité. Et Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, l'avait théorisé en disant on a un vrai challenge, c'est que maintenant on a remplacé le thème de l'identité et comment est-ce qu'on s'accommode de ça? Alors, je pense que ça fait aussi prospérer le Front National, et on voit se développer des thèmes qui sont très compliqués à gérer pour la gauche, qui est la contestation de l'assistanat, la volonté peut-être d'exclure du système l'autre. Et donc, comment gère-t-on ça? Je pense que Marine Le Pen, dans ce contexte de crise, elle joue aussi beaucoup là-dessus, et que c'est un vrai défi pour les partis de gouvernement.
En 1995, Pierre Rosanvallon écrivait dans Libération que les opinions se sont déplacées, les grands clivages politiques de demain s'articuleront aussi, bien que non exclusivement, autour de ces deux domaines, la politique du lien social et les formes de la démocratie. C'était exactement il y a 20 ans. Donc, politique du lien social, forme de la démocratie, est-ce que ça vous apparaît aujourd'hui comme les thèmes clivants plus que les thèmes économiques? Pierre Rosanvallon commençait sa tribune en disant: c'est plus sur la politique économique qu'on peut distinguer la droite et la gauche, ce sera sur ces nouveaux thèmes.
Alors sans vouloir m'attaquer au maître, pour lequel j'ai beaucoup de respect et je m'inspire beaucoup de son œuvre, mais moi je pense, pour en revenir à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, moi je pense que Nicolas Sarkozy a avant tout gagné cette élection avec son fameux gagner plus, travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire une thématique économique et sociale, beaucoup plus que sur la thématique de l'identité. Il disait juste que la droite devait revenir sur ses valeurs. Et à mon avis, c'est donc beaucoup plus sur l'économique et le social que sur le terrain sociétal qu'il a gagné cette élection. Donc moi, je pense que les gens sont encore en attente de réponses sociales et politiques à cette question de la crise. Maintenant, ce qu'il faut voir quand même et qui peut nous interpeller, c'est que on voit aujourd'hui en Europe des partis populistes, des partis nationaux populistes émerger dans des pays qui, économiquement, vont plutôt bien. Je veux dire, si on prend l'Autriche, le Danemark, la Suisse, on voit émerger comme ça des partis qui ont des thématiques sensiblement proches de celles du Front National. D'ailleurs, le Front National s'est inspiré des thématiques de certains de ces partis. Je pense à l'UDC en Suisse, ou je pense au PVV aux Pays-Bas. Et donc, est-ce qu'il suffirait de sortir de la crise économique et de retrouver de l'emploi pour tout de suite assécher les voix du Front National? Alors certes, les situations, l'histoire politique, idéologique est différente aujourd'hui en France que dans les pays que je viens d'évoquer, mais je pense quand même que la question mérite d'être posée, qu'il est en train de se passer aujourd'hui une sorte de mutation politique aujourd'hui en Europe, et qui montre que si l'électorat est toujours en quête de solutions, et en tout cas de solutions qui ont trait à l'économique et le social, il y a peut-être autre chose qui est en train de se jouer dans le sociétal.
Nicolas Sauger.
Ce qu'on voit, ce qui est intéressant dans ces pays-là, finalement, c'est ce qui a limité la progression ou a amorcé la régression de ces partis populistes ou de droite radicale, c'est finalement l'arrivée de ces partis au gouvernement. Et pourquoi est-ce que ça a asséché une partie de leur potentiel électoral? Pour probablement plusieurs raisons, mais une, c'est qu'ils n'étaient pas si différents des autres une fois au gouvernement, et deuxièmement, et plus fondamentalement, je pense, c'est qu'on est dans un monde où le gouvernement lui-même, le gouvernement national, est de plus en plus affaibli dans la mesure où les logiques qu'on connaît, la globalisation, la construction européenne, etc., etc., font que les gouvernements nationaux, ils ne peuvent plus avoir un impact immédiat et fort sur les grandes questions de société. Ils peuvent, évidemment, sur des enjeux symboliques qui sont importants dans la vie de tous les jours, mais qui ne sont pas absolument structurants dans la vie politique, avoir un impact. Mais aujourd'hui, un gouvernement ne peut pas décider de faire l'inflation pour lutter contre le chômage. C'est juste quelque chose qui n'est hors de portée de l'ensemble des gouvernements, pas du monde, mais en tout cas de l'Europe. Et ça mène, évidemment, ces partis aussi, quand ils sont confrontés à ces questions concrètes, finalement affaiblir comme les autres. Ce qui n'est pas rassurant pour autant.
Vous voulez dire que l'avantage du FN pour le moment, c'est qu'il parvient, lui, à mettre le doigt sur les sujets qui sont encore clivants, qui sont encore, qui sont porteurs de mobilisation au sein de la société, que ce soit par exemple le positionnement par rapport à l'Europe. C'est ça l'avantage du FN, c'est de pouvoir mettre le doigt sur les clivages de société qui vont structurer
Je pense que la grande force du Front National, c'est de mettre le doigt sur l'impuissance des autres et de se nourrir de l'impuissance des autres. Sa grande force aussi, c'est ce qui me frappe beaucoup, c'est quand on l'attaque, c'est sa capacité à esquiver le problème. Quand on lui dit, par exemple, vous sortez de l'euro et qu'est-ce qui va se passer ? La réponse immédiate est de dire, mais de toute façon, ça va tellement mal maintenant qu'il faut essayer. Donc, je trouve que c'est ça leur capacité, c'est la capacité de mettre en scène un avenir, une rupture, quelque chose qui peut même être en lien avec un peu la tradition française qui, au bout d'un moment, on fait la révolution parce que tout est bloqué. Mais en même temps, effectivement, je pense qu'un Front National arrivant au pouvoir serait confronté exactement aux mêmes difficultés que les autres. Donc Rosa Vallon, là où je l'approuve, c'est que je pense qu'il y a toute une réflexion effectivement à faire sur le fonctionnement démocratique et sur la remise en mouvement de la société. Comment est-ce qu'on remet le citoyen dans le circuit ? Comment on en refait un acteur actif, alors que tout ne peut pas être décidé d'en haut. Et ce que je constate chez Sarkozy, que je le constate chez François Hollande, quand ils disent il faut aller plus vite, on décide et ça ne marche pas, c'est qu'ils mettent le doigt sur l'impuissance. Il ne suffit pas d'être en haut du système et de dire il faut ça. Le système ne suit plus, soit parce qu'il y a trop, soit parce qu'il y a trop de contraintes, soit parce que... Mais, donc il faut remettre la société en mouvement. Et ça, je trouve que c'est un challenge très important qu'on ne théorise pas encore tellement.
Pour bien comprendre, est-ce que ça veut dire que si demain le Front National arrivait au pouvoir, le système est tel qu'il il serait obligé de se confronter à une logique de gouvernement et donc que le clivage assez fort entre parti de gouvernement, parti d'opposition, obligerait le Front National à changer son logiciel, à évoluer, et que finalement les institutions seraient plus fortes que le programme de ce parti ? C'est de la politique fiction, mais c'est des questions qui risquent de se poser, Sylvain Crépon.
Oui, c'est le grand défi de ce parti. Hein. Bon, il y a toute une batterie de sondages qui sont sortis pour montrer, par exemple, que les électeurs du Front National, ou même les électeurs en général, considéraient que le Front National n'était pas en mesure de gouverner. Et pour avoir interviewé plusieurs cadres du Front National, plusieurs cadres du Front National assez haut placés, conviennent eux-mêmes que le Front National n'est pas aujourd'hui en mesure de gouverner, qu'il n'a pas assez... de cadres compétents faisant partie de la technostructure qui permettrait de prendre les problèmes à bras le corps.
Au-delà de la compétence, est-ce qu'il devrait mesurer, réduire ses ambitions, enfin remettre un logiciel plus républicain et abandonner des thématiques qui sont aujourd'hui les siennes ?
Ah bah ça, moi je connais pas assez la psychologie des leaders du Front National. Est-ce qu'ils décréteraient de façon unilatérale la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro ? Et de faire une politique de dévaluation massive pour essayer d'amorcer une relance économique. Bon, je peux pas prédire, mais effectivement, à mon avis, il serait obligé de se confronter à un principe de réalité qui n'est pas le sien aujourd'hui et qui est quand même une sorte de confort intellectuel énorme. Moi, je sais que il y a quelque chose qui se joue là-dedans qui est aussi de l'ordre de la compréhension, de l'ordre du sens. Moi, j'interviewe beaucoup d'électeurs et de sympathisants du Front National qui me disent « Mais lorsque Marine Le Pen parle, je la comprends. Je comprends ce qu'elle dit, c'est un discours qui fait sens. Je comprends la direction qu'elle mène, je comprends le diagnostic qu'elle fait des problèmes. » Lorsque j'entends d'autres leaders des partis, entre guillemets, dits de gouvernement, je ne comprends pas. Il y a une sorte de technicité qui m'échappe. Et c'est ce qui fait, quelque part, que je m'en remets au Front National parce qu'il tient un discours que je peux intégrer, que je suis en mesure d'intégrer.
Une des promesses de François Hollande était d'introduire un peu de proportionnel dans les scrutins. Est-ce qu'on peut imaginer que cette promesse ne sera pas tenue compte tenu des derniers résultats ?
On peut l'imaginer, mais beaucoup le regretter. Hein. Finalement, aujourd'hui, si les partis de gouvernement avaient quelque chose à faire, comme l'UMP comme le PS, c'est supprimer ce système majoritaire qui, un jour, pourrait se retourner contre eux, au profit du Front National.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion que nous poursuivrons, bien sûr, sur Internet, que vous pouvez poursuivre. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page du Grain à Moudre sur franceculture.fr. Merci Françoise Fressos, éditorialiste politique au Monde. Merci Nicolas Sauger, politologue, professeur associé à Sciences Po, et Sylvain Crépon, merci à vous également, maître de conférence en sciences politiques. Je rappelle, enquête au cœur du Front National, Nouveau Monde, édition en 2012. Les références seront sur notre site internet. Un petit mot pour vous signaler le forum L'année vue par les sciences organisé par France Culture ce samedi 14 février de 9h30 à 18h30 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'entrée est gratuite, mais n'oubliez pas de réserver avant mercredi 12 février. à au 01 56 40 10 57 ou à auditeurfrancecultures@radiofrance.com. Demain, la citoyenneté est-elle accessible aux personnes handicapées? En attendant, il est 19h sur France Culture. C'est l'heure du rendez-vous et c'est à vous, Laurent Goumard. Bonsoir.